10h35, plusieurs interrogations en alimentation dans les dernières semaines, les derniers mois et pas plus tard qu'hier. On vous parlait de près de 900 aliments chinois qui ont été interceptés au Canada avec des soupçons concernant des étiquettes défectueuses, des allergènes non indiqués, des contaminants dangereux comme du verre ou du métal. C'est ragoûtant. On a vu également du miel avec du sucre ajouté. Et ça, c'est sans compter, on s'en est déjà parlé, des poissons qui étaient mal identifiés, même des escalopes de veau en restauration qui n'étaient pas vraiment du veau, c'était plutôt du poulet, parce que c'était moins dispendieux. Beaucoup, beaucoup de fraudes alimentaires. Est-ce qu'on sait vraiment ce qu'on mange? On en parle avec Sylvain Charlebois, qui est professeur en distribution et politique agroalimentaire à l'Université Dalhousie, Halifax. Bonjour, Sylvain.
Bonjour.
Vous avez de la matière, vous, j'ai l'impression, cet été, parce qu'on voit beaucoup, beaucoup de fraudes alimentaires, autant sur les tablettes qu'au restaurant.
Ouais, malheureusement, ouais. C'est une réalité, hein, cachée. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui pensent pas trop. C'est certain que c'est mon domaine. Je surveille beaucoup. J'en parle depuis maintenant pratiquement 10 ans. Mais vraiment, dans les médias, on en parle beaucoup plus depuis 2 ans. Puis je suis content parce que plus qu'on en parle, plus qu'on surveille, plus qu'on trouve et plus qu'on protège les consommateurs.
Mais est-ce qu'on s'informe assez sur ce qu'on mange? Parce qu'on a l'impression d'être toujours surpris. Je regardais ce qui a été intercepté hier, justement. Puis, bon, des boules de gomme qui contenaient un corps métallique étranger, du chaumaine instantané avec un insecte, des tentacules de pulpe épicée qui présentent un danger non précisé. Évidemment que ça... on n'a pas la même culture non plus. On peut comprendre, mais le miel avec du sucre ajouté, des choses comme ça dans notre consommation de tous les jours.
Oui, c'est ça. Ben, il y a eu un rapport la semaine passée de l'agence qui démontrait que 22% de contenant de miel qui a été acheté au Canada, en fait, contenait d'autres choses que du miel. C'est désolant, mais il faut en parler. Il faut de plus en plus... partager ces informations-là. Vous me posez la question, est-ce qu'on est assez informé? Est-ce qu'on s'informe suffisamment? Ben, on s'informe selon l'information à laquelle on a accès, finalement. Ce qui arrive actuellement, c'est que de plus en plus, avec les différents ports qu'on entend, comme hier avec la liste des 900 produits qui arrivent de la Chine, ben, on a accès à une chaîne d'approvisionnement beaucoup plus transparente. Et c'est tant mieux. Donc, plus qu'on offre d'informations aux consommateurs, plus que le consommateur va faire des choix éclairés. Depuis, pendant 30 ans, vraiment, on achetait à l'aveuglette. Là, on savait pas trop ce qui se passait. Bon, on pensait que tout ce qu'on achetait, tout ce qui était dans les magasins était salubre, bon pour la santé. Mais là, avec la science, avec la recherche, avec la diffusion d'informations, ben là, on en sait plus. Et tant mieux.
Tant mieux si on en sait plus. Et je veux revenir sur ce qui s'est passé avec les produits de la Chine, parce que c'est pas la première fois qu'on interceptait des aliments. C'était arrivé en février aussi. On est plus vigilant maintenant avec les produits qui arrivent chez nous?
Oui. En fait, les tests, la fameuse liste des 900 produits qui arrivent de la Chine, c'est pas anormal, malheureusement. Là.
On a l'impression pourtant, parce qu'on n'en parle pas tant que ça. On en a parlé en février, mais c'est pas à toutes les semaines qu'on arrive avec la liste des produits, là.
Ben, on parle beaucoup de la Chine ces temps-ci en raison, évidemment, de ce qui se passe là avec le cas Meng Wanzhou à Vancouver qui a été arrêté. De ce temps-là, les Chinois n'aiment plus ce qu'on produit, le porc, le bœuf, le canola, tout ça.
Il y a une chicane politique,
c'est ça, mais ça n'a rien à voir, cette liste-là, avec les tensions qu'on vit avec Beijing. C'est vraiment une question de protocole, de vérification. Et ce qu'on fait avec cette liste-là, habituellement, c'est qu'on partage cette liste-là avec les autorités chinoises. Et c'est à eux de rectifier le tir. Le problème, évidemment, quand tout ça devient beaucoup plus politique, ben ça prend plus de temps, évidemment. Alors, on émet des restrictions pour protéger la population canadienne.
Quand on parle de fraude alimentaire, j'en parlais tantôt, je donnais l'exemple des escalopes de veau qu'on peut aller voir au restaurant, qu'on les choisit et finalement on se rend compte que c'est du poulet. Puis parfois la différence, on la goûte pas vraiment, tu sais, avec de la sauce, du fromage. Est-ce que ça, en restauration, il y a un moyen justement? Oui, vous allez me dire que quand même l'agence des aliments qui va passer, tout ça, mais c'est plus pour la salubrité. Est-ce qu'on regarde vraiment qu'est-ce qu'il y a au menu? Est-ce que nous, comme consommateurs, on peut, tu sais, je vous dis pas qu'on peut aller en cuisine quand même, là, quoi qu'on aimerait bien ça. On aurait peut-être des surprises, hein, vous allez me dire.
Ouais.
Mais comment, comme consommateur, on peut vraiment vérifier que le poisson est le bon et que ce que je mange finalement dans mon assiette, ben c'est le bon produit?
Mais souvent, c'est ça, on sort, puis bon, on fait confiance au restaurateur, on se fait servir un bon plat, on paye les yeux de la tête. On va même aimer ce qu'on mange sans se poser la question, mm-hmm. à savoir, bon, est-ce que le menu est intègre, est-ce qu'on nous sert exactement ce qu'on a commandé. Malheureusement, l'année passée, j'ai participé à un rapport d'Oceana sur la méthodologie. On s'est rendu compte que 44% des poissons fruits de mer servis au Canada, là, dans différents restaurants au Canada, n'est pas ce que la personne a commandé sur le menu. 44%,
c'est
là.
Énorme.
Donc, c'est 2 fois sur 5. Oh, oui. Montréal n'était pas dans l'échantillonnage, mais il y a Ottawa, Halifax. Écoutez, Halifax, juste à côté de la mer, imaginez. Vancouver, Calgary puis Toronto. Mais c'est un problème. C'est, vous venez de le dire, avec la sauce, le vin, le fromage, il faut vraiment être expert pour savoir reconnaître la différence entre différentes espèces, là. C'est pas facile pour le commun des mortels. Mais il y a des programmes de certification, par exemple, comme OceanWise. Ce que j'encourage vos auditeurs de vérifier, c'est lorsque vous visitez un restaurant, si le restaurant est certifié, qu'il vous offre une plus grande transparence, mais ça peut rassurer parce que le restaurateur doit acheter de certains fournisseurs attitrés.
Mais est-ce que les raisons évoquées justement des restaurateurs, parce qu'on dit si j'achète avec OceanWise, est-ce que ça va coûter plus cher? Est-ce que je vais en avoir pour mon argent? On sait que même, puis on en parlait d'ailleurs à l'émission de la pénurie de main-d'œuvre, comment c'est pas facile non plus pour les restaurateurs. Est-ce que pour eux, ça coûte moins cher de trafiquer finalement les aliments que, comme vous me disiez, à Halifax, on est à côté de la mer, donc j'ai pas l'impression que ça va coûter moins cher de trafiquer que d'aller voir mon pêcheur du quartier?
Ben, la fraude alimentaire existe pour une raison. Il y a une motivation financière de nous, en fait, de nous truquer finalement. Mais le trucage existe pour une raison. L'industrie reconnaît qu'il y a une immense pression sur l'industrie qui vient finalement de nous tous. Là. On veut bien manger, mais aussi on veut épargner. On veut pas payer nécessairement cher. Alors, et c'est ce qui arrive. Le ménage moyen au Canada va dépenser environ 9% de son budget à l'alimentation. 25 ans, il y a 25 ans, c'était 25%. Fait que vraiment, de moins en moins, l'alimentation prend une place importante dans notre budget. Et l'industrie le sait, ça. Donc, cette pression-là est réelle et c'est pour ça qu'il y a une compétition d'offrir un produit à moindre prix le plus souvent possible. Si, par exemple, la culture change, si on est prêt à payer un petit peu plus cher, c'est certain qu'on a moins de chances d'être truqué par la fraude alimentaire.
Et Sylvain Charlebois, je trouve ça quand même particulier parce que j'ai l'impression qu'on n'a jamais autant parlé d'alimentation, de santé, à quel point il fallait choisir nos aliments, les bons produits bio. Il y en a même, il y avait des articles aujourd'hui d'ailleurs où on parlait à quel point il y a un nombre croissant de fermes bio et pourtant, on est prêt à dépenser seulement que 9 %. Et à l'époque, on était plus dans les gros trans, on s'occupait un petit peu moins de notre alimentation, il n'y avait pas de problème, puis on était à 25. Mais pourquoi on n'est pas prêt justement à faire ce changement-là? Grande question.
J'en parlais ce matin avec des gens que je rencontrais là, sur l'alimentation. Y a la réalité et il y a la fiction. À la radio, lorsqu'on parle à d'autres gens, lorsqu'on répond à des sondages, on est prêt à dire qu'on achète bio, qu'on paye cher, on veut pas vraiment couper les coins ronds avec l'alimentation. Mais dans les faits, là, écoutez, là, les gens veulent épargner. Là. Ils ont des budgets serrés. Surtout au Québec, j'entends parler de gens qui veulent, disons, dénigrer certaines bannières, là, qui nous vendent de la bouffe. Mais la dernière fois, j'étais allé visiter certaines bannières là, où les rabais sont partout. J'étais pas tout seul, là. Il y a beaucoup de monde qui veulent acheter des rabais. Alors, faut être réel dans notre approche. Faut être réaliste dans notre approche le plus possible. Puis le prix demeure le point décisionnel le plus important pour n'importe qui.
On poursuit la discussion après la pause avec Sylvain Charlebois. Est-ce qu'on sait vraiment ce qu'on mange? Vous pouvez d'ailleurs lui poser vos questions au 514-790-9850. Toujours en compagnie de Sylvain Charlebois, qui est professeur en distribution et politique agroalimentaire à l'Université Dalhousie à Halifax. Est-ce qu'on sait vraiment ce qu'on mange? Et je commence de plus en plus à être inquiète et je vais poser davantage de questions. C'est ce que je me rends compte également. Et Sylvain, il y a des questions des auditeurs. Notamment, il y a Cathy qui nous demande, est-ce qu'on doit toujours acheter du miel dans une miellerie? Est-ce qu'on va être plus protégé à ce moment-là? Évidemment, on fait référence à cette étude, à cette enquête qui a démontré qu'on avait beaucoup de sucre ajouté, finalement, dans le miel.
Oui, ben c'est ça. Le miel, ce qui est dommage avec le miel, ben il y a pas de date de péremption. Hein. On peut garder le miel pendant des années. Je sais pas si vous saviez, mais ça pourrit pas. Le problème, c'est lorsqu'on intègre un ingrédient, ben ça peut pourrir. Éventuellement, ça peut compromettre l'intégrité du produit comme tel. Ce que je suggère, évidemment, si vous voulez vraiment être assuré, c'est n'acheter pas des produits importés. Achetez du miel canadien, parce que la traçabilité est possible. Vous pouvez vraiment retourner à la ruche même pour ce qui est des produits de miel au Québec et au Canada.
Il faut parler aussi de cette mode. Plusieurs ont utilisé le barbecue pour faire la boulette Beyond Meat. On en parle énormément.
Ah,
l'action en bourse a explosé. Écoutez, je regardais ce matin,
166 $,
puis au départ, là, c'était 65 $ américains.
Vous n'êtes pas actionnaire toujours?
Non, j'aurais bien aimé ça. J'ai manqué mon coup. Mais je regardais la liste des ingrédients. Puis tu sais, quand on parle, on n'est pas dans la fraude alimentaire, mais quand même, je me dis, écoute, on fait une boulette supposée qui ressemble à du steak haché avec du méthylcellulose, de la maltodextrine, du glycérine végétale. Il y a tellement d'ingrédients que je me demande, est-ce que c'est si santé?
Bien, c'est un bon produit, le produit Beyond Meat, mais c'est pas un produit parfait. Il y a beaucoup de science dans ce produit-là. C'est pas un produit archi-naturel. Et tout ça, en fait, offre une opportunité à des producteurs canadiens. Beyond Meat est une compagnie américaine basée en Californie qui utilise des ingrédients canadiens, des pois jaunes canadiens. Je sais qu'il y a certaines entreprises québécoises qui sont sur le point, en fait, d'offrir des produits d'ici aux consommateurs québécois et canadiens. Et c'est tant mieux. Donc, et probablement que ces produits-là vont être beaucoup plus naturels. Donc, le succès de Beyond Meat, en fait, a ouvert les portes pour ce qui est des produits à base de protéines végétales. On croyait pas, il y a quelques années, qu'une entreprise pouvait offrir un produit à base de protéines végétales dans 30 000 magasins là, à travers le monde. C'était impossible à y penser. Beyond Meat le fait. Donc, on ouvre la porte à d'autres petites entreprises de chez nous pour faire la même chose.
Mais est-ce que c'est une mode présentement? Parce qu'on est plus dans... On parle de véganisme, les végétariens aussi. Où ça va vraiment devenir la tendance d'avoir de ce qu'on appelle des simili-viandes? Là. C'est comme ça que je pense qu'on pourrait le traduire.
Ouais, ben en fait, c'est pas juste le bœuf. Il va y avoir du simili-poulet, du simili-porc. Il y a du simili-poisson qui s'en vient aussi, là. Non, ce n'est que le début, là. C'est pas juste une petite mode, là. C'est y a une tendance. Écoutez, il y a des grandes entreprises comme Cargill, Tyson, Maple Leaf qui ont décidé de construire des usines de plusieurs millions de dollars un peu partout en Amérique du Nord, là. Et ces compagnies-là ne décideraient pas de faire ça sans qu'il y ait des chiffres à l'appui, là. Donc, c'est une tendance qui va se maintenir et la filière s'ajuste en conséquence. Le véganisme, c'est une chose, c'est une diète extrême. Vous savez, il y a à peu près 450 000 véganes au Canada. Je ne suis pas certain qu'il y en a plus, mais il y a plus de flexitariens. Là. Les végétariens à temps partiel, là, ceux qui veulent peut-être couper dans la viande durant la semaine et la fin de semaine, ils retombent en amour avec le barbecue. Là. Ça, c'est le marché qui intéresse Beyond Meat et les autres entreprises. Et ça va durer pour encore un certain moment.
On a une question d'une auditrice, Sylvain Charlebois. C'est Christine, bonjour.
Bonjour. Je m'excuse, j'ai acheté du sirop d'érable qui est supposé d'être du Québec à l'épicerie et je l'ai laissé sur le comptoir et il est venu une couche verte, moisissure dessus. Puis pour moi, c'est comme... Je suis vraiment pas sûre que j'ai acheté du vrai sirop d'érable.
Sylvain Charlebois, est-ce que ça se peut que ce soit du faux sirop d'érable?
Oh boy.
Bonne mélangée.
C'est dommage, ça. Ouais. C'est dommage, parce que le sirop d'érable aussi n'est pas supposé pourrir ou supposé durer. Alors, probablement que moi, j'irais... Les détaillants sont assez généreux. Normalement, vous pouvez rapporter cette histoire-là à votre détaillant, raconter votre histoire, et puis ils vont certainement prendre bonne note et vous même vous rembourser. Je l'ai fait à quelques reprises récemment avec du hummus, et puis on m'a remboursé même sans reçu. Alors, les détaillants sont assez sensibles à ce genre d'histoire-là. Là. Ils font leur possible.
Donc, il ne faut pas se gêner pour rapporter le produit en question, expliquer.
Non, moi, je ne me gênerais pas du tout. En fait, ils ont besoin de cette information-là pour qu'ils puissent relayer cette information-là à leur fournisseur.
Ouais. On est dans la belle saison aussi, il y a les marchés publics. Et là encore, on a vu des cas de fraude alimentaire. Le prix est souvent élevé, peut-être plus élevé qu'il serait supposé. Vous en pensez quoi, Sylvain Charlebois? Comment on devrait se préparer quand on va dans les marchés publics?
Ben, acheter en saison, puis si c'est en saison, puis c'est deux fois le prix, posez-vous des questions. Tu sais, c'est une autre histoire. Au niveau de l'information, on en parlait plus tôt. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'est-ce qui est en saison, qu'est-ce qui ne l'est pas. Regardez les calendriers. Je sais que le MAPAC là, fait un travail formidable. Même l'Union des producteurs agricoles font un travail formidable pour informer les gens à savoir qu'est-ce qui est en saison. Même il y a certaines bannières qui le font aussi. Et renseignez-vous, aujourd'hui, tout est en ligne. Avant d'aller faire votre épicerie, assurez-vous de savoir un peu quoi payer cette semaine-là, parce que d'une semaine à l'autre, surtout cette année d'année, ça change énormément.
Et parlez aussi au producteur pour être bien certain que le producteur est celui, justement, qui a cueilli le légume ou encore le maraîcher avec le fruit, parce que souvent, c'est en parlant qu'on peut avoir exactement l'exactitude du produit.
Ben absolument. Quand on visite un marché public, c'est certain qu'on s'attend à payer un petit peu plus cher que la moyenne parce qu'il y a l'expérience qui vient avec. Mais la personne qui vous vend, que ce soit un distributeur ou un producteur maraîcher, c'est quelqu'un souvent qui a de la passion. On va vous raconter ce qui se passe et on va vous dire exactement ce que vous avez besoin d'entendre. Moi, j'encourage les gens de visiter une fois en temps les marchés publics parce que c'est toujours, toujours agréable. Il y a de la musique, on peut essayer différents produits pour la première fois, là. Surtout si c'est en fin d'année, il fait beau, là, profitez-en.
Oui, puis il faut les rendre encore plus accessibles, d'ailleurs, pour les familles. Je sais que ça s'est fait dans différentes provinces canadiennes. Je pense à Foodbox, entre autres, qui est une belle initiative également pour redonner, pour inciter, d'ailleurs, les familles peut-être qui ont moins de sous à aller dans les marchés publics.
Ben, vous êtes bien informés. Une monnaie virtuelle pour aider les familles qui n'ont pas les moyens de visiter les marchés publics. Ça n'existe pas encore au Québec, mais ça existe chez nous en Nouvelle-Écosse. En Colombie-Britannique depuis déjà quelques années. C'est formidable. Démocratiser les marchés publics, là, c'est quelque chose d'important parce que on vit quelque chose de différent là, lorsqu'on visite un marché public par rapport à un supermarché. Ouais. Alors, j'espère que l'ensemble des provinces un jour vont décider de faire la même chose.
Ben, je le souhaite également, d'autant plus que c'est la belle saison. On va en profiter. Sylvain Charlebois, c'est toujours un plaisir. Merci d'avoir été avec nous.
Au revoir, Catherine.
Merci, professeur en distribution et politique agroalimentaire à l'Université Dalhousie à Halifax. 10h56. Dan Bigras, salut.
Allô.
Content de te retrouver.
Ben oui, on se voit chez le matin. On est steady,
nous. On est un couple du matin.
Voilà.
On va dire ça comme ça.
Qui dure 3 minutes.
Ben,
on s'en dure 3 minutes, c'est pas pire.
Les petites vites, c'est toujours bon. Punition excessive, un sujet que...
Ça, je vais en faire ma sonnerie de téléphone.
Il y a un article dans la presse. Écoutez, moi, j'avoue que... Je me souviens, des fois, on disait, ma grand-mère, oh, une petite claque sur une fesse, ça fait juste picoter, ça fait pas grand mal. Et pourtant, on se rend compte à quel point les punitions excessives, ça a de graves répercussions dans le cerveau des ados.
Bien, je voudrais bien voir l'article scientifique qui dit qu'une claque sur la gueule, puis une claque sur les fesses, il y a une différence de picotement.
Ben oui.
C'est de la violence.
Oui.
Mais les actions très coercitives aussi, c'est-à-dire donc ce qui est teinté d'agressivité des parents, ça fait, chez les enfants, ça déclenche évidemment des réactions très anxieuses.
La peur aussi.
La peur, ah oui, mais c'est parce que ça, n'importe quel psychanalyste aurait pu te le dire. Ouais. Mais là, c'est une étude qui est sortie dans Biological Psychology. Et puis, ça démontre que simplement, tout le mécanisme qui se passe dans le cerveau, c'est assez long, là, l'étude, mais j'ai le nez dedans. Et puis, ça déclenche des adultes qui vont avoir des états anxieux. Toute leur vie. Imagine. Dépression, et des états très durs à gérer toute leur existence. Donc, claque ses fesses, rien. Il n'y a rien qui est permis.
Jamais, jamais. Dan Migros, c'est un plaisir. On se reparle à midi pour ton émission. 10h57, les informations de Cogeco Nouvelles. Et au retour, on va parler d'histoire et de jeux vidéo parce que oui, ça peut aider les jeunes, ça aussi.